Et si on partait sur Europe 1 toutes les après-midi, un grand voyage, que vous soyez à la plage ou au bureau ou dans un transport, il suffit de fermer les yeux et de vous laisser porter. Tout de suite, nous sommes en ligne avec Fred Chesneau, qui est chef propriétaire d'un restaurant à Paros, une très jolie île des Cyclades au milieu de la Méditerranée. C'est un amoureux absolu de la Grèce. Fred, vous avez longtemps été le... Les gens connaissent sans doute votre visage. Vous avez été longtemps le globe cooker des nouveaux explorateurs de Canal+. C'était le cuistot qui goûtait à tout, partout autour de la planète, même les trucs les moins ragoûtants, c'est ça?
Ouais, mais on ne retient que ça, malheureusement.
vous êtes à Paros, là?
Ouais, je viens d'arriver. Alors, malheureusement, pas pour ouvrir mon restaurant, parce que cette année, c'est trop compliqué. Pour tout vous dire, je m'y suis depuis 3 jours et il n'y a personne. J'ai encore jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on est, on est début juillet, alors que normalement, une île qui est assez, assez fréquentée. Et
début juillet, personne à Paros, c'est incroyable,
non,
à entendre. Hein.
C'est pour ça, si vos auditeurs nous écoutent, c'est l'année pour aller en Grèce.
C'est vraiment le moment d'y aller, ouais. Pour profiter sans les foules.
Surtout quand vous aviez parlé de votre île préférée, Santorin. Santorin, c'est génial, mais moi, j'y suis retourné il y a 2 ans. J'ai pleuré. C'était c'était tellement noir du monde.
Il y a
c'était
beaucoup
tellement
de monde.
Ouais, trop de monde.
Et du coup, cet été, oui, je confirme, c'est vraiment l'été où il faut absolument aller à Santorin.
Faites-nous rêver. Dites-nous ce que vous voyez autour de vous. Faites-nous voyager.
Alors, c'est quand même un pléonasme en Grèce, parce que la Grèce blanche et le ciel bleu, voilà, déjà il y a ça qui est frappant, et c'est ça fait partie. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que une fois qu'on est en Grèce, là je vais y rester pour un petit bout de temps, je suis en vacances, on a toujours cette garantie du ciel bleu. Les maisons sont blanches, donc déjà on est tout de suite projeté dans un autre univers. Et puis bien sûr la végétation, c'est là je suis précisément dans le jardin de mon restaurant, et là j'ai des oliviers centenaires, j'ai des bougainvilliers partout, ça sent bon, c'est voilà. Et en plus là on arrive à la fin de la journée, là le soleil va bientôt se coucher, et on a toute cette chaleur qui remonte des pierres, qui est super agréable. Voilà.
Vous savez quoi, on est jaloux. Vous êtes très énervant.
Ah j'espère bien, c'est un peu le but.
Alors, pourquoi est-ce que d'après vous, on se sent... Moi, c'est vraiment un truc que je sens chaque fois que j'adore aussi aller en Grèce. Pourquoi on se sent tout de suite bien dans ce pays? Il y a une espèce de truc magique. Est-ce que ça ne vient pas des Grecs eux-mêmes aussi?
Obligatoirement. Je pense que le charme de la Grèce, ce n'est pas seulement une beauté visuelle. C'est aussi, on en parlera tout à l'heure, la cuisine. Mais c'est surtout, avant tout, les Grecs. Les Grecs, vous savez, ils sont réputés pour une chose qui est la philoxénia. La philoxénia, c'est l'amour de l'étranger. Et ça, je peux vous dire que c'est pas un mythe. C'est pas du tout un mythe.
Ça se traduit comment?
Ça fait vraiment partie de leur ADN. Alors, ça se traduit par déjà une bienveillance, l'envie de vous aider. Je vous donne un tout petit exemple. Quand il y a 4 ans, j'ai ouvert mon restaurant. J'ai pas choisi la carte de la facilité. C'est-à-dire qu'à l'époque, je parlais pas bien grec. Je ne savais quasiment pas lire. Bon, j'ai monté ce business, et monter un business,
c'est comme monter
un business en vente, c'est compliqué. Et bien là, je peux vous dire que tous les Grecs m'ont aidé. Même des restaurateurs qui venaient me voir, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné la liste de leurs fournisseurs, qui savaient vraiment m'aider.
Un Français qui vient à Paros dire aux Grecs, je vais faire de la moussaka, et il vous regarde de quel œil?
Oui, non, alors justement, bizarrement, non, c'est même pas bizarrement, mais je ne m'aventure pas sur le terrain de la cuisine grecque.
Ah, vous êtes prudent.
Tout simplement parce que ce serait quand même ultra indécent. On mange tellement bien grec dans toutes les tavernes. Je crois que d'un point de vue marketing, je crois que ça aurait pas été le bon plan. Donc du coup, non, j'en ai profité pour me dire, eh bien, ce restaurant, ça va être l'occasion pour moi de
faire
restituer
de la cuisine
tout
péruvienne.
Ce que j'ai pu glaner dans le monde entier. Pardon ?
De faire de la cuisine péruvienne.
Entre autres, pourquoi pas ? C'est vrai que la cuisine péruvienne est très bonne.
Est-ce que, Fred, qu'est-ce que vous nous conseilleriez, vous qui êtes au cœur des Cyclades, hein, à Paros, quelles sont les vos plus belles îles, les endroits où vous nous conseilleriez d'aller ?
Alors déjà, moi j'ai un petit crush sur les Cyclades, hein, bien entendu, je ne suis peut-être pas objectif par rapport à ça, mais les Cyclades, moi là aussi, je vais pas être objectif en disant venez à Paros, mais quand même, je dis Paros, c'est pas la plus belle des îles, mais c'est une des plus charmantes, je trouve. En revanche, pour ce qui est de dire vraiment les plus belles îles à mon goût, Amorgos, c'est vraiment le number one.
Amorgos, c'est l'île du Grand Bleu.
La fameuse île du Grand Bleu. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Milos, bien entendu.
Milos, on en entend moins parler.
Ouais, bah oui. Alors c'est vraiment, c'est tout petit, hein, mais c'est je crois que c'est vraiment là où la couleur de l'eau est la plus translucide, où c'est vraiment
ouais, c'est
magnifique.
Ça se discute quand même pour la couleur de l'eau, hein, Fred. Ah oui, il y a de la concurrence.
Ah,
hein,
ouais. Il y a compète là.
Où ça, vous ça?
On va le voir tout à l'heure. Je garde mes petits secrets, ouais. Philippe. Hein.
Et moi, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup vous me dites la vérité. Je trouve que quand on va visiter les Cyclades au mois d'août, ce qui est souvent généralement quand on est en vacances, il y a beaucoup de vent. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même?
Le fameux Melten.
Ouais.
Moi je trouve pas que c'est un problème parce qu'il fait quand même chaud, hein, vous le savez
bien. Ouais, ça souffle très fort.
Je dois
tout
dire
le
que
temps.
Ça fait pas de mal. Après, attention, ça dépend aussi des îles. Hein. C'est-à-dire que c'est le même vent, mais vous avez, par exemple, Mykonos est beaucoup plus venteux que Paros, par exemple. Mais non, objectivement, on en fait tout un foin de ce Melten. Franchement, moi, je suis plutôt partisan du fait de dire que ça fait plutôt du bien.
Merci beaucoup, Fred. Vous restez avec nous en ligne. On continue à explorer les îles grecques. Allô. Dans un instant sur Europe 1 dans Et si on partait? Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h pour une nouvelle destination, juste pour le plaisir de rêver ensemble, se faire du bien. Aujourd'hui, nous sommes en Grèce et je voudrais vous parler d'une île beaucoup moins connue, c'est l'île d'Eubée. C'est pourtant la deuxième plus grande île de Grèce, qui n'est pas si loin que ça d'Athènes. Et dans cette île, on entend ce genre de son. Jusque-là,
tout va bien.
Jusque-là, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est?
Des moutons.
Des moutons, hein, tout simplement.
Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Et maintenant, je vais vous faire écouter un deuxième son. Écoutez ça.
Une marmotte grecque.
On dirait comme un appôt.
Non, c'est pas un appôt.
Pour attirer
les oiseaux.
C'est pas des oiseaux.
Oui, on dirait un son d'oiseau, exactement.
Une autre idée? Vous n'êtes pas dessus, là, pour l'instant.
Ce sont les habitants.
Ce sont les habitants, tout à fait. Ce sont les bergers qui sont en train de siffler, non pas les moutons, mais ils sont en train de discuter entre eux. C'est tout à fait étonnant. C'est une sorte de langue qui s'appelle le sphyria, qui vient de l'ancien grec sivrzo, j'arrive pas à dire.
On sait très bien, Philippe.
Et c'est une très ancienne tradition qui date de plus de 2500 ans et qui permet aux bergers de se parler d'un versant à l'autre. Juste en sifflant, sur cette île qui est quand même très montagneuse.
Oui, il dit « Salut, comment ça va ?»
Oui.
Très bien.
Eh bien, je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire écouter un échange. Alors, je vous donne la traduction avant. Là, le berger, il va dire « Et salut, c'est Yanis, comment ça va? Est-ce que tu vas bien ?» Voilà. Et
c'est dingue.
Ah, c'est incroyable. C'est dingue.
Il n'a pas dit il y a une blonde qui passe là.
Non. Mais il pourrait. Mais franchement,
ça, il siffle plus là.
Mais il pourrait.
Il souffle coupé.
Il pourrait parce qu'on peut tout exprimer. Chaque sifflement correspond à une voyelle. Donc ils peuvent faire des phrases entières. Ils peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Et il y a même la grammaire habituelle, la grammaire du grec. Il y a de vrais dialogues. Je vais vous en faire écouter un. Alors là, ils vont dire hey, t'as nourri le cochon? Réponse oui. Question, est-ce que les moutons sont revenus? Réponse, oui, ils sont à l'intérieur. Écoutez. Ah, c'est pas mal quand
c'est
même.
C'est incroyable.
Hein.
Ah oui, c'est dingue. Ah,
c'est dingue. Alors, c'est vrai, vous avez raison, pour siffler une fille, ça doit être confusant.
Oh, oui, c'est moins confusant.
Ça doit poser un problème. Et alors, la force du sifflement, c'est qu'il porte beaucoup plus loin que la voix. C'est plus puissant, c'est donc on peut émettre des sons très loin, et c'est transmis comme ça de père en fils. Alors, je vais vous faire écouter l'alphabet grec. Hein. Donc là, par exemple, attention, je vais vous faire écouter alpha. Ça, c'est le A, alpha. Voilà le bêta, B.
Ah, c'est subtil quand même. Hein.
Ouais, là, il faut avoir l'oreille. Hein.
Ah, c'est une question de ton.
Il faut avoir l'oreille.
Compliqué.
Ça, c'est le gamma.
G.
Et puis voilà le delta.
Et combien d'années d'apprentissage pour maîtriser
Il faut l'oreille absolue pour faire ça.
Et absolument. Non seulement il faut savoir siffler, mais il faut avoir une très bonne oreille et puis un bon entraînement. Alors il reste très très peu de siffleurs qui connaissent vraiment cette sorte de langue. Et d'ailleurs, il y a une école là-bas sur cette île de Bé pour les enfants qui veulent apprendre à siffler parce que c'est plutôt en train de disparaître. Et ils en sont un peu tristes, hein, parce qu'ils tiennent très fort à cette tradition. D'ailleurs, je vous propose de finir sur une phrase d'un des bergers qui va vous dire, toujours en sifflant, J'ai appris tout ça de mes grands-parents et j'aimerais bien que mes enfants l'apprennent aussi. Écoutez. Voilà.
Ah, c'est super. Je vous propose de terminer l'émission en sifflant.
Je ne sais pas, je n'ai jamais su siffler. Moi, j'ai testé la honte dans la cour de récré.
Et si on partait
en sifflant, ouais.
Je ne sais pas siffler, je n'ai jamais réussi de ma vie. Et non, non, vous connaissiez ça, Fred Cheneau ? Vous êtes en direct de Paros depuis.
Oui, 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 c'est complètement incroyable.
Ouais, c'est incroyable.
Et malheureusement, effectivement, c'est un peu en voie de disparition.
Ouais. Et alors, on a beaucoup parlé des îles. Il y a juste quand même, pour en dire un mot, la Grèce, c'est aussi le pays des sites antiques splendides. Fred, qu'est-ce que vous nous conseilleriez, peut-être du côté d'Athènes ? Est-ce qu'il y a des sites qu'il faut absolument voir ? Les tours Eiffel ?
Athènes, c'est. Enfin, moi, je veux dire, mon rituel. Moi, dès que je vais à Athènes, je vais à l'Acropole tout de suite. Ça, c'est voilà. Je ne suis allé qu'une seule fois à la Tour Eiffel, alors que je suis parisien depuis 40 ans. Mais là, Athènes, dès que j'y vais, c'est mon petit pèlerinage. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me prendre une décharge de 2500 ans dans les doigts. Et voilà.
Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose à l'Acropole.
Absolument. C'est comme si d'aller au Caire, on va pas voir les pyramides. Il faut absolument aller.
Jean-Bernard a un petit mot à nous dire sur
l'Acropole. Petite astuce quand même sur le fameux Acropole.
Musée de l'Acropole. Il y a Benaki. Il y a plein de choses à faire au niveau culturel. Oui, il faut quand même. Il faut quand même s'y arrêter un petit peu.
Alors,
même
petite
si,
astuce quand même,
je rejoins, Fred. Vous dites que c'est une ville un peu étouffante, mais quand même, ça vaut vraiment le détour.
Fred, une petite astuce au niveau de l'Acropole, la prochaine fois que vous irez. Alors, il y a le Parthénon qui occupe la place centrale de cette Acropole, évidemment. Mais moi, j'aime bien le temple de Poséidon. Bon, on va parler de la mer, évidemment. C'est le dieu de la mer. Ce temple, il n'est pas très connu. C'est peut-être le site le moins connu de ce Parthénon, de cette Acropole, pardon. Il se trouve juste à l'est du Parthénon et il est caché par un mur qu'on appelle le mur de Thémistocle, mais on y accède par un petit escalier. Voilà ma petite astuce de découverte.
C'est votre petit plus quand
on
va à
l'Acropole. Ouais, c'est le petit plus. Voilà.
Très bien. On va continuer à explorer la Grèce dans un instant sur Europe 1. C'est un pays infiniment riche d'histoire, de paysages, de traditions très étranges parfois. Vous savez, des fois on n'imagine pas ça en Europe, mais on va partir dans un instant retrouver Alexia qui nous parlera de ces Grecs religieux qui réussissent à marcher dans les braises sans se faire mal. En tenant des icônes à bout de bras, cette histoire est folle. On a l'impression d'être de l'autre côté de la planète, dans une région de rite hindou, mais pas du tout. Ça se passe en Europe dans quelques instants sur Europe 1.